Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Shlomo Malka, qui nous parle d'Elena Ferrant à la recherche de l'amie prodigieuse qui vient de paraître aux éditions Écriture. Bonsoir Shlomo.
Bonsoir Sandrine, je vois qu'on a à peu près le même souci, c'est qu'on a une voix un peu... En général, on nous reconnaît... On reconnaît notre voix.
Là, ça va être un peu difficile. Bon, les pollens font leur travail et puis peut-être que je parle trop aussi en ce moment. Donc je vais parler le moins possible et je vais vous laisser exprimer tout ce qu'on a envie d'entendre aujourd'hui. Alors je suis évidemment ravie de vous recevoir sur ce plateau pour parler de votre actualité. C'est donc la parution d'une enquête sur les traces d'Elena Ferrant, l'auteur de la saga L'Amie prodigieuse. Alors L'Amie prodigieuse, ce sont plusieurs romans qui racontent l'amitié de deux femmes de leur enfance à l'âge adulte sur fond d'un quartier pauvre de Naples. Ce succès de librairie, qui a été aussi un succès télévisé puisque les romans ont été adaptés en série, a conquis un public considérable et dans le monde entier. Hein. Et pourtant, le mystère règne autour de l'auteur Elena Ferrant, qui n'a jamais accepté une interview filmée ou enregistrée, ni même prêté le jeu à des séances de dédicaces. Alors, ce qui pose évidemment un certain nombre de questions, dont la plus évidente est qui est Elena Ferrant et pourquoi se cache-t-elle? Vous avez donc enquêté. On s'aperçoit très vite que les questions posées sur ce mystérieux auteur sont plus captivantes que la réponse à la question de savoir qui est vraiment Elena Ferrant. Alors, la première question évidemment qui s'impose, pourquoi avoir choisi de consacrer un livre à cette enquête autour du phénomène Elena Ferrant?
Eh bien, vous avez bien consacré un livre à Chouchani. C'est un peu une petite cousine de Chouchani. C'est une petite cousine d'une certaine manière, sauf que d'un côté, il y a une énigme littéraire et de l'autre, il y a une énigme, disons, métaphysique ou religieuse ou spirituelle. De ce point de vue, c'est très, très différent. Mais c'est la même chose dans la mesure où tous les deux ont fait mystère sur leur origine, sur l'origine, sur leur famille également. Et donc, je vais vous dire, la genèse du projet, c'est d'abord une lecture de la tétralogie, c'est comme ça qu'on dit, paraît-il, pour quatre livres et quatre livres de la saga prodigieuse que j'ai de l'amie prodigieuse pardon qui était effectivement une saga qui a été portée à l'écran et dont on va voir bientôt un troisième épisode. Il y en a deux qui ont déjà été portés à la télévision et qui ont été une réussite autant en Italie qu'en France qu'aux États-Unis, qu'en Israël. C'est vraiment c'est devenu une star d'une certaine manière. Et donc, au départ, il y a la lecture de ces quatre livres qui ont séduit beaucoup de monde, surtout pendant le confinement. Et je suis tombé aussi dans le panneau et j'ai non seulement lu ces quatre livres, mais j'ai lu aussi les autres livres d'Elena Ferrante et j'ai été séduit et intrigué. Séduit parce que il y a une écriture très très prenante qui raconte la vie quotidienne. Et en même temps, c'est l'histoire sur 2500 pages. Il n'y a jamais eu un projet de ce type, 2500 pages, consacré à l'amitié entre deux femmes. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a déjà des romans qui ont été consacrés à l'amitié entre deux femmes, mais là, c'est vraiment... Ilana Sigurel me dit, c'est la première fois que tu écris sur une femme. C'est vrai?
Est-ce que c'est une femme? On va y venir dans un instant.
C'est pas sûr non plus. Alors j'ai été intrigué quand même par cette affaire, par ce mystère qui veut que voilà une femme qui depuis son premier roman, hein, pas une fois qu'elle a connu le succès, mais avant même d'avoir connu le succès, voilà une femme qui dit, qui pose ses conditions à son éditeur. qui s'appelle E.O. et qui était spécialisé initialement dans la littérature dissidente. Milan Kundera avait une collection chez eux. Et elle pose ses conditions. Il n'y aura jamais de photographie, il n'y aura jamais d'interview, il n'y aura jamais de séance de signature, il n'y aura jamais d'apparition publique, évidemment pas à la télévision. La seule chose qu'elle a concédée, c'est de donner de temps à autre, et même là encore très chichement, de donner des interviews à des journaux.
Qu'elle sélectionne avec d'infimes précautions.
Qu'elle sélectionne et elle répond par mail. C'est-à-dire, on n'a pas un accès direct. Les gens posent des questions et on lui répond. C'est ce que j'ai essayé de faire. Malheureusement, je n'ai pas eu beaucoup de chance, mais ça a exacerbé ma volonté d'en savoir plus. Et donc, ce livre, pourquoi un livre
Je vais vous citer, parce que oui. Vous êtes posé cette question au début, on suit votre réflexion, pourquoi écrire cette enquête? Et puis vous écrivez, un mot d'un de mes interlocuteurs s'est inscrit dans ma tête, c'était peut-être le moment, au contraire, disait-il, de parler de cela, souvenir de mon vieux maître, au moment où je lui confiais que je m'étais mis à écrire sur son mystérieux inspirateur et référent. Je le revois encore, levant les bras au ciel et clamant, il n'y a pas d'autre sujet, mais n'est-ce pas la même sensation qu'on éprouve chaque fois qu'on plonge dans une œuvre, qu'il n'y a pas d'autre sujet? Vous parliez de Chouchani, là évidemment votre maître c'est Emmanuel Lévinas.
Oui.
Vous aimez les enquêtes un peu compliquées?
J'aime les enquêtes, j'aime les énigmes aussi. Là, c'est une énigme littéraire classique. Hein. C'est très proche de l'énigme autour de Romain Gary, parce que les gens qui ont fait mystère sur leur appartenance, sur leur famille, sur leurs origines, il y en a beaucoup, et même sur leur nom, qui ont pris des pseudonymes. C'est le cas effectivement de Romain Gary, c'est le cas de Milan Kundera, qui fait très peu d'apparitions publiques. Même on lui a demandé pour la Pléiade, parce qu'il y a une Pléiade sur Milan Kundera de donner une biographie, et il a dit non, il y aura une biographie de mon œuvre, mais il n'y aura pas de biographie personnelle. Alors, des énigmes de ce genre, il y en a beaucoup, mais c'est la première fois que rien ne transparaît, qu'en plus ça dure depuis le tout début, il y a une continuité. Et ça dure, y compris quand elle n'était pas vraiment connue, quand elle faisait ses premiers livres, L'amour harcelant, Frantumalia, etc. Tout ça avant qu'elle écrive, enfin Frantumalia c'est après, mais il y a un certain nombre de livres, Poupées volées, etc., qui précèdent L'amie prodigieuse, et pourtant... Elle tient son pari de ne jamais rien révéler, et c'est le cas aujourd'hui encore, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est elle,
Voilà. On va y venir dans un instant. Est-ce que le fait que vous soyez français et pas italien, ça vous donne un recul suffisant pour pouvoir enquêter? Est-ce que les Italiens, par exemple, veulent savoir qui est vraiment Elena Ferrante?
Écoutez, on verra, parce que je vais vous faire une confidence. En début de semaine, j'ai reçu un coup de fil de le traducteur du Chouchani en italien, qui s'appelle Alessandro Paris, et qui m'a dit, de mon livre sur ce Chouchani, qui a précédé le vôtre, mais que vous avez très bien, poursuivi et perfectionné d'une certaine manière.
Et il veut traduire.
Il m'a dit je veux traduire, mais il faut que je lui ai dit mais il faut trouver déjà un éditeur. Donc il va essayer de trouver un éditeur pour le livre sur Elena Ferrante. comment réagissent les Italiens? J'ai beaucoup de monde qui s'est intéressé à l'enquête et que j'ai pu voir, que j'ai pu confesser, qui m'ont dit des choses, notamment un ami qui s'appelle Paolo Levi, qui est le correspondant de la Stampa à Paris et qui s'est beaucoup intéressé qui m'a apporté beaucoup de son propre éclairage. Est-ce que ça va plus loin? Je ne saurais pas vous dire parce que pour l'instant, je n'ai pas vraiment
de retour
sur le plan italien.
Alors, vous parlez d'un écrivain italien connu et reconnu qu'on apprécie tous, Eri De Luca. On a l'impression que c'était le début de votre piste, que vous auriez aimé qu'il soit Elena Ferrante, mais ça ne matche pas, ça ne correspond pas.
Non, mais vous savez, j'y ai pensé beaucoup. Je dis souvent que j'ai été à Naples pour voir Eri De Luca et je suis tombé sur Elena Ferrante. D'une certaine manière, c'est vrai. Et alors, lui dit que il n'aime pas tellement. C'est pas un grand fan. Mais il a pris position en disant c'est pas normal qu'on essaye de faire de l'intrusion dans son intimité. Si elle a décidé que elle ne donnerait pas son nom et elle ferait mystère sur ses origines familiales, on n'a pas le droit de pénétrer et elle est tout à fait libre d'agir de cette manière. Le problème, c'est que bon, il y a eu l'université de Pise a mis trois noms. Ils ont fait ce qu'on appelle une analyse systémique, c'est-à-dire qu'ils mettent dans un shaker sémantique tel et tel livre et ils voient quels sont les rapprochements entre eux. Donc, ils ont mis là-dedans Anita Raya, qui est la...
Alors, si vous me permettez, on va en parler, puisque vous explorez les hypothèses. Et parmi ces hypothèses, il y a cette fameuse traductrice Anita Raya. Il y a aussi son mari, l'écrivain napolitain Domenico Starnone. Ou bien les deux à la fois. Ou bien Anita qui commencerait à écrire sous l'inspiration de son mari. Et puis, à quatre mains, il relierait les textes. Est-ce que finalement, c'est trop évident pour être la vérité et la solution à l'énigme?
Ben, c'est trop évident. Je ne sais pas. Il est évident que Anita Raya et Domenico Starnone ont quelque chose à voir avec les livres de Ferrante. Est-ce que c'est une œuvre en commun? Est-ce que c'est une œuvre à deux? C'est difficile à dire parce que c'est pas facile de travailler à deux. Vous le savez bien, nous, comme journalistes, on peut faire une enquête, disons. Mais c'est difficile de faire un livre, surtout un livre très inspiré, très, très romanesque, de le faire à deux mains. Et il y en a d'ailleurs qui pensent que c'est à plusieurs mains. Il y a des gens que j'interroge, comme Antoine Compagnon, qui est un critique littéraire de très grande, avec une hauteur de vue extraordinaire, et lui, il pense que c'est pas impossible, comme dans le cinéma, on peut écrire à plusieurs, et ben peut-être que dans les romans, on peut également écrire à plusieurs. Il y a des gens qui me disent aujourd'hui encore, après avoir lu, qui ont leur propre hypothèse. Il y a quelqu'un qui me disait hier, moi je crois que c'est Domenico Starnone. Est-ce que c'est possible d'écrire à deux? Est-ce que c'est possible d'écrire à plusieurs? C'est un problème et j'essaye de trouver la trace du véritable auteur en suivant surtout l'œuvre en elle-même, en suivant l'œuvre et en essayant de trouver quelques repères qui pourraient m'indiquer d'où vient cette œuvre.
Alors, il y a eu une enquête d'un journaliste américain qui a été polémique puisqu'il a été très intrusif et qui démontrait que les droits d'auteur étaient versés sur le compte d'Anita Raya. Est-ce qu'on peut se fier à cette enquête?
On peut s'y fier parce que c'est un journaliste de je veux dire, qui a beaucoup travaillé sur de grandes enquêtes et simplement, il a le défaut. Il vit aujourd'hui aux États-Unis. Il est marié avec une juive new-yorkaise qui lui a dit qu'il fallait absolument qu'il l'a incité à
qui
lire.
Qui lui a mis entre les mains les livres.
Voilà. Et donc, il y a eu cette enquête, et lui, c'est un peu à l'américaine, il dit « follow the money ». Il sort pas de là, hein, disant « c'est, il faut suivre qui a reçu les droits d'auteur ». C'est Anita Raya qui est une traductrice de la maison d'édition, donc c'est elle. Et pour lui, c'est elle et personne d'autre. Et moi, j'étudie toutes les hypothèses et je ne peux pas rejeter l'hypothèse selon laquelle le mari, qui est un écrivain très connu et qui a fait des livres qui se rapprochent un peu d'Elena Ferrante.
Et surtout qui a grandi dans un petit village juste à côté de Napoli, un quartier pauvre qui ressemble à s'y méprendre à ses descriptions de l'ami prodigieuse.
Absolument. Il est une grande partie de sa famille vient du Rione Luzzati, qui est le lieu où se passe toute l'intrigue de l'ami prodigieuse. Donc.
Et vous expliquez aussi que pour les Napolitains, c'est une sorte de secret de polichinelle. On a l'impression qu'ils sont au courant de qui est l'auteur, mais qu'ils ne veulent pas dire mot.
Il y a une espèce d'omerta, exactement, chez tout le monde. Personne ne veut dire quoi que ce soit là-dessus. Donc, c'est très difficile, finalement, de ce point de vue. Ça rapproche un peu de votre propre enquête sur Chouchani, sauf, encore une fois, qu'on peut trouver des points communs sur l'origine familiale. Et moi, j'ai essayé quand même de fouiller de ce côté-là, et il y a plusieurs choses qui sont apparues.
Du côté du mari, donc
Du côté de Anita Raya.
Alors justement, c'est quelque chose d'important qu'il faut le souligner. Elle est la fille d'une juive née en Allemagne de parents polonais, Golda ou Goldi Petzenbaum, et la famille s'était réfugiée à Milan en 1937. Et donc on se demande finalement si c'est bien elle l'auteur de la saga, Anita Raya. Est-ce que ce goût du secret ne lui vient pas de ses origines qu'il a fallu cacher pendant la Shoah ?
Je pense que oui. Moi, je pose un certain nombre de questions dans ce livre. La question essentielle étant de savoir, est-ce qu'on peut dissocier une œuvre de son auteur ? Est-ce qu'on peut... Elena Ferrante dit souvent... Si on voyait apparaître dans la rue, bras dessus, bras dessous, Tolstoï et Anna Karénine, on regarderait tous en direction d'Anna Karénine, personne ne ferait attention à Tolstoï. Bon, c'est une thèse qui n'est pas nécessairement approuvée par tout le monde. Antoine Compagnon dit par exemple pourquoi on peut très bien s'intéresser à Tolstoï aussi, qui était un personnage fascinant. Je décris un peu la manière dont il a été enterré. Lui aussi, c'était quelqu'un de très fascinant. Il n'y a aucune raison de penser que les personnages surpassent, mais c'est ce qu'elle pense, elle, Elena Ferrante. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, j'ai apporté le dernier livre d'Eri De Luca, qui s'appelle Diable gardien, comme ange gardien, c'est diable gardien. Et il écrit deux choses, il dit « Les livres ont leur biographie différente de celle de leurs auteurs. » Et puis encore « Cet exemple et d'autres m'ont appris que les mots écrits se mettent en voyage loin et indépendamment de leur auteur. » Ça veut dire que c'est vrai que d'une certaine manière que l'œuvre vit sa vie indépendamment de l'auteur. Et ça, c'est une intuition d'Elena Ferrante, mais elle me semble juste. Simplement, moi, j'ai essayé quand même de trouver pourquoi ce goût de rester une auteure cachée et qu'est-ce que ça a à voir avec la famille Petzenbaum qui a, dont une grande partie a été décimée dans la Shoah, une autre partie a été internée dans des camps d'internement en Italie. J'ai d'ailleurs un chapitre sur ces camps d'internement en Italie. Moi, je savais rien de la manière dont les Italiens ont vécu la guerre et je me suis un peu documenté et il y a des choses qui sont très proches, notamment sur le plan de la mémoire, très proches de ce qui a été vécu en France.
Alors, c'est un vrai sujet de savoir le lien entre la vie et l'œuvre, qu'est-ce qui influe sur l'autre dans une œuvre. Et finalement, dans la saga L'Amie prodigieuse, il y a quand même des tas de références à la mère, même si ce n'est pas explicite. Et là, une fois encore, je vous cite, vous écrivez « Elena Ferrante évoque sa mère dans Frantamuglia. Elle dit qu'elle était couturière, mais pas un mot sur son enfance, pas un mot sur son origine allemande, pas un mot sur son accent. Toute l'œuvre de Ferrante se déroule dans l'Italie de l'après-Seconde Guerre mondiale, dans ce quartier pauvre de Naples. » Mais rien de son histoire personnelle, ni celle de sa mère ne transparaît. Rien n'est dit des épreuves traversées par sa mère et ses grands-parents dans la Pologne des pogroms, dans l'Allemagne nazie et dans l'Italie fasciste. C'est quand même étonnant.
Et moi, j'ai été frappé par ce grand trou noir dans l'œuvre. C'est-à-dire que voilà une œuvre qui est une saga extraordinaire sur l'Italie de l'après-guerre, qui commence l'histoire de ces deux petite fille, grandie, devenue femme, etc. On les suit depuis le lendemain de la guerre jusqu'à aujourd'hui, pratiquement, dans l'Italie de l'époque. Et pourtant, il n'y a pas un mot sur la guerre. Il n'y a pas un seul mot qui évoque la guerre, sinon de manière très, très allusive, très allusive, et notamment... Quand il y a le tremblement de terre de Naples qui est évoqué et où tout d'un coup ça fait remonter à la surface un certain nombre de choses.
Alors justement, est-ce qu'un silence ne fait pas sens aussi parce que si elle a été marquée par cette enfance un peu compliquée et celle de sa famille, eh bien elle décide finalement de ne pas l'aborder.
Elle décide de ne pas l'aborder. Pourquoi Elle décide de ne pas l'aborder et en même temps c'est très présent. La relation à sa mère est extrêmement fondatrice
de toute
l'œuvre.
Et de toutes les mères aussi. Les deux amies, les mères sont très présentes. Des amis, etc.
Oui. Oui, moi je pense que on ne peut pas. Elle a essayé de gommer toute cette période, mais elle n'a pas pu gommer le fait que sa mère était une réfugiée qui arrivait de Pologne, qui a traversé la Suisse en pleine nuit à l'âge de 5 ans pour arriver à Naples, à Naples puis à Rome ensuite. Et donc, il y a quand même... C'est quand même une... Il y a le fait aussi que la mère, c'est pas un hasard, est devenue à publier des livres de grammaire d'allemand, enseigner l'allemand. Elle-même est devenue traductrice de l'allemand, et notamment de Christa Wolf. Enfin, elle est devenue son amie. Donc, il y a cette présence... Et moi, j'essaye de voir entre les mots, et j'ai trouvé beaucoup de repères dans l'œuvre, mais j'essaye de voir la trace de ces... Et finalement, j'essaye de voir dans quelle mesure ce n'est pas une histoire européenne où les femmes jouent un rôle extraordinaire. Les femmes, Elena et Lila, les deux personnages principaux, qui vivent leur vie au long de toutes ces années en étant des femmes très fortes qui s'assument et à l'image aussi de la mère et de son aventure d'enfant caché.
Est-ce que vous avez une intuition que vous pourriez nous communiquer? Selon vous, finalement, qui est Elena Ferrante?
Bah, écoutez, si je vous le dis, plus personne ne lira le livre.
Alors, je vais vous poser une autre question. Est-ce que finalement, ce mystère qui entoure l'auteur n'est pas un génial coup marketing pour donner envie de lire les livres?
Non, j'exclus l'idée d'un... Parce que bon, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, c'est de la littérature de gare, etc. C'est faux, je ne pense pas que ce soit de la littérature de gare. Ou alors, Madame Bovary, Anna Karenine aussi, est de la littérature de gare. C'est pas une littérature de gare. Et ensuite... Il y a quand même, je rencontre d'ailleurs le traducteur en hébreu, Alon Altaras, qui m'a beaucoup aidé, qui est un grand fan. Il faut savoir qu'en Israël, ils sont extrêmement... Je dis ils sont comme s'ils étaient plusieurs. Je vous donne un indice,
oui.
Là.
Oui.
En tout cas, plus qu'une personne. Ça, je le crois. Je pense qu'il y a plus d'une personne qui est à la manœuvre.
Est-ce que foncièrement, vous pensez que ce mystère a contribué au succès du livre?
Non, je ne pense pas qu'il y a une opération marketing. C'est la seule chose que j'écarte.
Au-delà de l'opération marketing, si Anita Araya, pour des raisons qui lui sont personnelles et que peut-être n'aime pas la médiatisation, mais a préféré rester en dehors, si son mari est associé d'une manière ou une autre... peu importe, le fait d'avoir posé un mystère sur cet auteur donne quand même envie de lire le livre, les livres de la saga.
Oui, mais je crois qu'elle ne l'a pas fait pour ça.
Je pense
qu'il y a quelque chose, et c'est pour ça que je n'essaye pas de faire de l'intrusion. Je pense que elle dit, et elle l'a dit à plusieurs reprises, si on m'empêche de taire mon origine, mon nom, ma famille, etc., je cesserai d'écrire. Et ça, c'est elle le vit très profondément, ça. Mm-hmm. Et donc, est-ce qu'on a le droit de l'empêcher d'écrire? C'est ça qui est un problème. Donc, je suis... Dans cette ligne de crête, là, j'essaye de savoir parce que j'aime bien les énigmes littéraires.
Mais en même temps, vous respectez son secret. Et puis surtout, à vous lire, on a envie de relire ou de découvrir L'ami prodigieuse.
Oui. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais...
Moi, je l'ai lu. Alors, je peux vous dire honnêtement, hein, j'ai lu le premier tome et j'ai trouvé ça très violent.
Oui.
Et donc,
le premier tome est très violent.
Et donc, je n'ai pas eu envie de lire le deuxième.
Oui.
Eh bien, à vous lire, j'ai repris le premier tome et je vais enchaîner les quatre de la saga. Voilà. Donc, votre livre a au moins cette utilité de donner envie de voir avec un autre œil cette saga de l'ami prodigieuse.
Voilà. En tout cas, je peux dire aussi que Eri De Luca est très présent dans ce livre. On verra pourquoi. Mais je dis que si on me donnait à choisir, êtes-vous Eri De Luca ou êtes-vous Elena Ferrante, je préfère Eri De Luca. Parce qu'il y a chez lui vraiment un retour assumé, une volonté d'accompagner le judaïsme d'être un lecteur un amoureux fou de l'hébreu et un lecteur. Alors peut-être que d'une certaine manière, c'est Eri De Luca. Vous savez que les deux sont donnés comme prix Nobel possible. Hein.
Oula.
Mais les gens se posent la question, si c'était Elena Ferrante, est-ce qu'elle romprait le vœu qu'elle a fait,
secret.
Le serment de ne jamais apparaître en pleine lumière, et si elle irait chercher ou pas le prix.
Eh bien, ça serait une histoire incroyable, même si personnellement, je trouve que Eric De Luca le mériterait amplement.
Absolument, mais je le dis aussi.
Oui.
Je suis d'accord avec
mais
vous
et
je le dis aussi.
Ce serait une jolie opération que Ella Ferrante puisse
peut-être
l'obtenir.
D'ailleurs tous les deux. Hein.
Ou tous les deux. Alors, il y a une question classique, mais non moins difficile, dans cette émission pour conclure, si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de lire Ella Ferrante à la recherche de l'amie prodigieuse que vous venez d'écrire. Qu'est-ce que vous leur diriez ?
Ben, je leur dirais que au-delà du mystère que j'ai essayé de dépouiller un peu, de solutionner d'une certaine manière, il y a un vrai personnage chez Ella Ferrante. Alors c'est un personnage, c'est deux personnages, c'est plusieurs personnages, mais en tout cas il y a une écriture et je conseille surtout Frantumalia, qui s'appelle L'écriture et la vie, qui est un peu Georges Samprin avait écrit L'écriture et ma vie, et elle écrit L'écriture et la vie. Et je dirais que c'est une bonne introduction, Frantumalia, à l'œuvre de Ella Ferrante.
Merci infiniment, Shlomo Malka, d'avoir accepté de parler avec nous de votre actualité. Je le répète, la parution de la magnifique enquête Ella Ferrante à la recherche de l'amie prodigieuse qui vient de paraître aux éditions Écriture. Et c'est évidemment un livre, une enquête que l'on recommande à tous nos auditeurs et auditrices. Merci beaucoup,
merci
à très
beaucoup,
bientôt.
Merci beaucoup, Sandrine.